Frères et sœurs, d'abord, merci de m'avoir invité pour ce temps de message de ce dimanche. Et c'est vrai que c'est important de vivre ensemble une forme de communion à travers l'écoute de la même parole et d'avoir cette richesse d'approche. Et puis en même temps, je me suis dit tout à l'heure, en vivant avec vous le temps de louange, je me suis dit que nous étions, par la louange, aussi appelés à faire des brèches dans nos vies pour laisser passer la lumière du Seigneur dans nos vies. Et la louange est un outil, je ne sais pas si le mot outil est très approprié, mais en tout cas, il est un facteur important pour que nous puissions laisser un espace de lumière continuer de pénétrer nos vies. Nous avons vécu ces temps d'hiver avec beaucoup de grisailles. Et puis ce matin, il y avait un très beau soleil, même s'il était frisqué. La lumière, ce n'est pas forcément toujours la chaleur, mais c'est quand même un apport qui est important pour nous. Ce qui m'a beaucoup surpris dans l'écriture, c'est qu'il y a toujours un lien entre la lumière et la vie. Et ce lien, il est constant. Alors je vais lire avec vous, pour commencer, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 8. Et je lirai à partir du verset 12. Ce récit fait suite immédiatement au récit de la femme adultère. Et il précède, ce n'est pas tout à fait un hasard cette place-là dans l'Évangile de Jean, il précède la guérison d'un aveugle. Donc Jean 8, à partir du verset 12 jusqu'au verset 29. Jésus leur parla de nouveau et dit « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez pas d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si moi je juge, mon jugement est conforme à la vérité, car je ne suis pas seul, mais avec moi, il y a le Père qui m'a envoyé. Dans votre loi, il est écrit que le témoignage de deux hommes est vrai, et moi je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Les pharisiens lui dirent donc, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus dit ces paroles dans le lieu où était le trésor du temple, alors qu'il y enseignait, et personne ne l'arrêta, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. » Vous ne pouvez venir où je vais. Les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais? Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu ? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit, d'abord pourquoi vous parlerai-je ? J'ai à votre sujet beaucoup à dire et à juger, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait de son Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Et en complément de ce passage, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, je lirai les versets 14 à 16. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Seigneur, ta lumière est une lampe sur notre sentier, une lumière sous nos pas. Amen. Voilà une proclamation de Jésus qui est très étonnante. Moi, je suis. Jésus s'est placé au temple de Jérusalem, dans un endroit où il y a beaucoup de passages, beaucoup de va-et-vient. Et pour enseigner, les pharisiens se tenaient sous le portique qu'on appelle le portique de Salomon, une sorte d'arcade le long du mur sud de l'esplanade du temple. Et Jésus est au centre de cette arcade, en face de ce qu'on appelle le trésor, c'est-à-dire près de la belle porte, par où on a accès à la cour des femmes, puis à celle des hommes, puis au lieu du sacrifice, où seuls les prêtres ont accès. C'est un endroit bien situé pour faire une déclaration solennelle. Or, on nous dit que Xla, qui a connu le temple avant sa destruction par les Romains en l'an 70 de notre ère, et il dit que cette illumination était un spectacle extraordinaire. On pouvait le voir de n'importe quel point de la ville de Jérusalem. Et cette lumière de la fête est l'occasion pour Jésus de déclarer devant la foule qui se presse là dans le temple, « Je suis la lumière du monde. » Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière de l'univers. Il réalise, bien sûr, Jésus, à la fois la prophétie d'Ésaïe à propos du serviteur promis par Dieu, qui a dit « Je fais de toi la lumière des nations », mais il y a bien plus encore que la lumière des nations. J'y reviendrai. Parce que la lumière, c'est d'abord la première chose que Dieu crée. Dans le livre de la Genèse, au premier chapitre, au verset 2, il nous est dit que Dieu crée la lumière. Il dit que la lumière soit. La lumière, c'est une manifestation de la gloire de Dieu, c'est un signe de sa présence. Et c'est aussi la manifestation de sa vie, de la force de sa vie. Le premier jour de la création, Dieu inonde ce qu'il crée de cette lumière, que la lumière soit. Et dans ce premier texte où on trouve l'affirmation que Dieu crée la lumière, il y a bien sûr cette lumière qui va déterminer et ordonner la vie que Dieu va créer à la suite. Et ce Fils de lumière, tout à l'heure on a chanté la Trinité, Père, Fils et Esprit, et on peut penser que Dieu, Père, Fils et Esprit, au démarrage de la vie, de la création, on peut penser donc que ce Fils lumière crée avec le Père et l'Esprit cette lumière. Alors cette lumière qui nous environne, dont nous nous réjouissons, que nous attendons souvent dans les jours courts de l'année, cette lumière, elle vient encore d'ailleurs. Elle vient de lui, elle vient de Dieu, elle vient du Père, du Fils et de l'Esprit. Et c'est pour cela que l'on peut retrouver le pourquoi de cette affirmation extrêmement forte et assez étonnante de Jésus, je suis. je suis. Ce je suis, on le trouve déjà dans le Premier Testament, dans un récit où Moïse, cherchant une brebis perdue dans une grotte, rencontre un buisson qui brûle. Et là, à un moment donné, cette voix qui l'interpelle lui donne pour mission d'aller libérer ses frères et sœurs d'Israël en esclavage. Et alors Moïse pose la question à Dieu, « Mais quel est ton nom ?» Et la voix répond, « Je suis qui je suis. » Réponse étonnante aussi, réponse un peu énigmatique, mais une réponse qui, quand même, situe Dieu dans la catégorie de l'existant, de l'être, de la vie. Le buisson ardent, c'est l'épisode où, pour la première fois, Dieu se révèle comme celui qui est. Et il y a une relation entre le buisson ardent, lumineux, et cette existence, cette vie. Autre parallèle que l'on peut faire, lorsque, une fois que Moïse a accompli sa mission libératrice, une fois que, à son corps défendant, Pharaon accepte que le peuple hébreu quitte l'Égypte, c'est encore une nuée lumineuse qui va accompagner le peuple dans sa marche vers la liberté. Et cette nuée lumineuse, cette lumière, représente là à la fois la présence de Dieu, elle représente son accompagnement, elle représente sa protection pour son peuple. Autre élément encore, dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus monte sur une montagne avec trois de ses disciples, Simon-Pierre, Jacques et Jean, on nous dit qu'il est transfiguré. Et les évangiles n'ont pas de mots assez forts pour dire que ce qui émane de lui est tellement blanc que c'est un blanc bien plus blanc que les murs de cette salle, bien plus blanc que la blancheur que nous pourrions trouver n'importe où. C'est une lumière qu'aucun être humain ne peut produire. Et le visage de Jésus resplendit, ses vêtements deviennent comme de la lumière. Et d'ailleurs, cette lumière, à un moment donné, va s'estomper, mais les disciples vont certainement avoir retenu dans leurs yeux et dans le souvenir que cette vision a pu produire en eux, cette lumière, ils la garderont. À cause de cette présence, la lumière est aussi donc signe de la vie que Christ veut donner à celles et ceux qui croient en lui et pour qui il est chemin, vérité et vie. Il est vraiment la lumière pour qui l'accepte, puisque, comme nous le rappelait tout à l'heure l'évangéliste Jean, en le voyant, on voit le Père. Jésus, quand il est né, sa naissance a déjà été annoncée par un signe de lumière. C'était une lumière qui avait enveloppé les bergers de Bethléem. C'est encore une lumière qui a été acclamée par le vieillard Siméon lorsqu'il tenait cet enfant dans ses bras à 8 jours. « Mes yeux ont vu ton salut et tu as préparé ce salut à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations. » Et dans le texte que nous avons lu ce matin, Jésus déclare pour ceux qui veulent le suivre, « Je suis la lumière, celui qui ne marchera pas dans les ténèbres, aura la lumière de la vie. » Cette proclamation très solennelle, « Je suis la lumière », rappelle mot pour mot d'ailleurs ce que le même évangéliste Jean disait tout début de son évangile au premier chapitre. En lui, le Verbe, en elle, la parole, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Évangile de Jean, premier chapitre, verset 4. Lumière et vie encore associées dans ce qu'on appelle le prologue de Jean, dans ce premier chapitre de l'Évangile. Lumière, vie, lumière. Dans le prologue, cette parole incarnée de Dieu est présentée comme ce qui possède la vie, et la vie en plénitude. Et cette vie est lumière pour nous, Et il nous est rappelé du coup au passage que nous marchons très souvent dans un monde obscur, dans des ténèbres, y compris celle de la mort. Alors que dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, dans le chapitre 8, Jésus se présente d'abord comme la lumière venue illuminer les ténèbres de ce monde pour conduire celles et ceux qui acceptent de le suivre jusqu'à la source de la vie dont il est là, lui-même, l'origine. Nous n'avons accès à la vie de Dieu que dans la mesure où nous acceptons de nous laisser illuminer par les paroles que Jésus nous adresse. La parole est la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Jésus est vraie lumière parce que je le crois profondément et dans ma vie simple et ordinaire, j'en ai fait souvent l'expérience. Jésus est lumière parce que en lui, les événements de ma vie et même la perspective de notre propre fin s'éclairent et trouvent leur sens dans l'horizon de l'amour du Père. Aussi, celui qui se laisse conduire par Jésus ne marche pas dans les ténèbres, mais dans la lumière qui conduit vers le Père, source de vie. Je disais tout à l'heure, ce récit où Jésus proclame de lui-même qu'il est la lumière était précédé par le récit de la femme adultère. Dans ce récit, il nous est rappelé finalement que la lumière qui procède de la parole de Jésus et qui rend la vie, c'est dans un aspect important, à la fois une parole qui éclaire les ténèbres de nos cœurs, et nous avons à nous laisser éclairer, parce que nous avons en nous-mêmes une part de nous-mêmes encore très sombre, et même après des années et des années de vie chrétienne, la vie de sanctification n'est jamais achevée. Il y a toujours encore des zones ou des terrains obscurs que le Seigneur veut conquérir, veut mettre à sa lumière. Et c'est un vrai travail, c'est un vrai travail spirituel, c'est un vrai travail où le Seigneur nous aide par la prière à laisser pénétrer en nous ces zones sombres de nos vies. Nous les connaissons parfois, et parfois nous les ignorons, parce que certaines circonstances de la vie vont révéler soudain qu'il y a une part obscure en nous que nous ignorions. Il nous faut beaucoup d'humilité. La lumière, c'est justement ce qui met à jour ce que nous désirions tenir caché. Mais le Seigneur, et il nous le montre dans la rencontre avec la femme adultère, n'est pas là pour nous enfermer. Il est là, au contraire, pour exprimer une parole de pardon. Et c'est bien ce qu'il va faire pour la femme adultère. Être lumière pour les hommes, c'est être source de vie et donc source de pardon pour nous. Que serions-nous si nous ne vivions pas quotidiennement du pardon reçu de Dieu ? Si nous reconnaissons nos péchés, dit la première lettre de Jean, lui est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout ce qui nous oppose à lui. Libérés de ce qui nous entrave, nous pourrons alors le suivre sur ce chemin et recevoir ce que le Fils a promis, la vie éternelle. Je viendrai maintenant à ce que nous avons lu dans l'évangile de Matthieu. Je suis la lumière du monde, vous êtes la lumière du monde. Si je disais tout à l'heure que cette lumière de Jésus est unique, parce qu'elle a sa source dans cette proximité, dans cette intimité qu'il a avec le Père, il utilise la même expression pourtant pour qualifier notre mission. Mais il y a un grand écart entre l'affirmation de Jésus « Je suis la lumière » et puis son exhortation qu'il nous adresse en tant que communauté et en tant que personne à être lumière du monde. Et cette lumière du monde, comment pouvons-nous la comprendre ? Moi, je la comprends d'une façon que je vous partage maintenant. Car la lumière, elle peut agir de deux façons. Elle peut se réfléchir, comme le soleil sur les murs blancs d'un village de Méditerranée. Et c'est ce que dit Jésus dans l'évangile de Matthieu, c'est « il faut que votre lumière brille et qu'elle soit visible ». Et dans ce cas, la lumière se projette, elle se voit, elle brille, elle ne passe pas inaperçue. Mais tout cela n'est pas sans danger. Et un danger pour une église, pour une communauté, pour un chrétien, une chrétienne, c'est de pouvoir devenir excluant, jugeant, vaniteux. Dans la lettre aux Romains, Paul va dire, en s'adressant aux Juifs, il va dire, toi, le Juif, au chapitre 2, tu penses être la lumière des nations, mais tu es plein d'obscurité. Il va dire ainsi que ce n'est pas parce que je vais m'approprier pour moi-même cette lumière de Jésus que j'ai reçue dans ma vie, que je suis nécessairement, immédiatement, automatiquement lumineux. Je peux ne pas l'être. Pourquoi je peux ne pas l'être ? Parce que je peux être jugeant, excluant, je peux être vaniteux. Si je ne reçois pas cette lumière constamment d'un autre, de lui, le Christ, ma propre lumière ne ressemblera qu'à une toute petite mèche qui est en train de s'éteindre. Alors cette lumière qui se reflète, c'est le premier effet de la lumière. Il nous vient d'ailleurs. Mais il y a un autre aspect et il faut absolument associer les deux. L'autre aspect, c'est j'assimile cette lumière. Je la reçois. Elle vient m'habiter au fond de moi. Elle vient illuminer, comme je disais tout à l'heure, les zones sombres de ma vie. Elle me nourrit du dedans. Elle me visite. Et du coup, on gagne en désir de changer, de se laisser transformer. Il y a aussi un risque, c'est de garder cette lumière pour soi, ne pas briller sur la montagne comme Jésus nous invite à le faire, ne pas en rayonner. Donc à la fois, cette lumière de Jésus, qui est lumière, vient à la fois briller en nous pour qu'elle se reflète à l'extérieur, mais elle vient aussi s'assimiler en nous pour nous aider à grandir. Un peu comme la vitamine D que préconisent certains médecins dans les moments justement où les jours sont très courts. Il faut l'assimiler. Jésus est lumière. Qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. En tant que disciple, le Seigneur nous invite à être une lumière pour le monde, à porter la lumière de l'espérance au milieu des violences, de la méfiance, de la peur de nos frères, de la peur des hommes. Il nous invite à porter la lumière de la foi dans l'obscurité, dans les doutes, dans les interrogations, à porter la lumière de l'amour au milieu de tant de mensonges, de rancœurs, de passions. Et si Jésus nous parle de lumière, c'est bien parce que il y a beaucoup de ténèbres autour de nous et que nous vivons dans les ténèbres de ce monde. La lumière ne se révèle bien que dans le sombre, évidemment. Et en même temps, et c'est aussi quelque chose de très beau, si nous laissons refléter la lumière de Jésus sur les autres, je fais le pari que nous les regarderons d'une autre façon. Il y a un conte qui explique qui raconte une histoire d'un village qui est tout à fait dans le noir, envahi de ronces, et à un moment donné, les gens essayent de capter le soleil, etc. Et bien sûr, ils échouent. Et puis, il y a un petit garçon qui dit, mais il suffit simplement de couper les ronces qui entourent le village et les arbres qui noircissent tout, et le village réapparaîtra sous son jour. Et à partir du moment où on procède ainsi, eh bien, les gens se reconnaissent les uns les autres. Ils reconnaissent leurs enfants, ils reconnaissent leurs parents, ils reconnaissent leurs voisins, leurs amis. Chacun reprend un visage pour l'autre. Si nous vivons dans l'obscurité, si nous ne reflétons pas, nous, la lumière de Jésus sur autrui, on le verra forcément comme un ennemi, comme quelqu'un que je peux dominer, manipuler ou ignorer. Mais Jésus nous invite à voir chacun, chacune, comme un frère, comme une sœur. Alors, pas forcément un frère ou une sœur dans la foi, mais un frère ou une sœur en humanité. Pour lui, pour elle aussi, Jésus a été élevé, comme le dit l'évangile de Jean, sur la croix. J'aimerais en particulier souligner un aspect un peu plus pratique de ce qui peut se vivre dans une communauté quand l'on veut refléter cette lumière qui est en Jésus. Eh bien, précisément, dans une communauté, dans une vie de famille, entre nos enfants et nous, entre conjoints, c'est la même chose. Témoigner que Jésus est lumière, c'est témoigner qu'il éclaire mes relations. Il y a souvent dans une communauté, dans une famille, dans un couple, des paroles qui peuvent être en demi-teinte, qui peuvent cacher la lumière. Il y a des non-dits, des jugements en creux, des refus d'écouter l'autre, parfois la volonté de dominer sur autrui, d'avoir raison. Et je pense que nous devons tous nous placer sous la lumière de Jésus et lui demander de refléter cette lumière dans notre communauté, que nous soyons un tout petit bout de lumière de Jésus pour l'un ou l'autre. La lumière reçue doit nous rendre plus humbles au cœur de nos relations fraternelles, car une fois encore, je ne suis pas source de lumière, je la reçois d'un autre. Et ces relations fraternelles ne seront jamais déconnectées de notre relation à ce que l'épître de Jacques appelle, à celui que l'épître de Jacques appelle le Père des Lumières. Peut-être que, disciples de Jésus, nous sommes appelés aussi à prendre davantage conscience de ces zones un peu sombres, encore une fois, non seulement dans ma vie personnelle, mais dans la vie de nos familles, sur nos lieux de travail, comme nous l'avons entendu tout à l'heure dans l'introduction à la louange, ou dans nos communautés. Je pense en particulier, malheureusement, à tous les scandales qui secouent nos églises et communautés et qui nous ont révélé à quel point nous marchons. Nous nous prétendons lumineux, mais parfois nous marchons dans des ténèbres obscures et nous apprenons que le chemin de la vie passe par le pardon et par la compassion, par l'exercice de la miséricorde. Nous savons aussi que nous sommes incapables de prendre ce chemin sans la lumière de la conversion. Il transforme notre cœur de pierre en cœur de chair. Moi, dit Jésus, je suis la lumière du monde. Jésus dit la parole de pardon qui sauve le monde. Il dit la parole qui abolit toutes les divisions. Il prononce la parole qui donne à la multitude la vie éternelle. Et c'est dans sa personne à lui que se trouve la vérité, le lieu même de ce qu'il nous dévoile. La révélation, c'est lever le voile de l'obscurité pour laisser entrer la lumière. Et c'est dans le Fils que Dieu peut être reconnu, trouvé comme Père. Je pense qu'il y a quelque chose de très fort dans le passage que nous avons lu dans l'évangile de Jean. Vous ne savez où vous êtes et où vous allez. Quand Jésus affirme « Je suis la lumière », il s'ancre lui-même, il s'enracine lui-même dans la vie de Dieu. Il ne se pose pas la question de « Où vais-je ? Qui suis-je ?» et toutes sortes de questions qui nous font souvent errer et nous égarer. En nous disant « Vous êtes la lumière du monde », il nous invite aussi à nous enraciner dans la vie du Père, à nous enraciner dans la vie de l'Esprit, à nous enraciner dans notre vie de disciple, à sa suite à lui. Et c'est important parce que parfois nous nous disons « Qui suis-je ? Quelle valeur ai-je ?» Il nous faut prendre conscience que nous sommes enfants de Dieu. Par notre conversion, par le baptême que nous avons reçu, par la sanctification dans laquelle nous marchons au quotidien, jour après jour, le Christ Jésus nous enracine dans la vie du Père. Et c'est ainsi, je pense, que nous pouvons être les uns pour les autres et devant lui, en toute vérité, lumière du monde. Mais évidemment, c'est ce « je suis » fondamental posé par Jésus lui-même qui peut, et lui seul, nous aider à marcher. « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, dit Jean, alors vous comprendrez que moi, je suis. » C'est la croix, de Jésus. C'est son sacrifice ultime à l'heure des ténèbres. Il s'est fait des ténèbres sur toute la terre au moment où Jésus est crucifié, où on met sur la croix celui qui est lumière des hommes. Eh bien, c'est là, sur la croix, que Jésus livre la lumière pour nous. C'est la foi en lui, la foi en son don, en son sacrifice, la foi en cet amour donné sans limite. C'est cette foi en Jésus, Fils de Dieu, qui nous permet de passer des ténèbres à la lumière. Et c'est devant Jésus crucifié et ressuscité que notre foi se vérifie. Le buisson ardent par lequel Dieu se révèle pleinement, c'est la croix de Jésus. C'est un mystère insondable de la mort et de la résurrection. Car, encore une fois, la lumière et la vie ont partie liée. Et c'est pourquoi Jésus, au cœur des ténèbres, nous laisse la lumière par sa résurrection, pour que nous puissions vivre, nous aussi, en enfants de lumière. Je vous invite à la prière.